Les secrets du musée Rodin.
Chut. Panorama 3, Rodin, côté technique.
Rien qui dépasse.
Où l'on découvre des bourgeois plus pauvrement vêtus que des mendiants.
Nous sommes à Calais, en août 1885. Des messieurs très sérieux se pressent en un même lieu. Ils trépignent, impatients, mais impatients de quoi ? De découvrir la nouvelle version des bourgeois de Calais que Rodin doit leur livrer. Ce groupe de 6 personnages sculptés qu'ils ont commandés au grand artiste, ils en ont déjà vu une première version qui les a enthousiasmés. Ce n'était pourtant qu'une esquisse, alors ils se disent que la seconde maquette plus aboutie sera incroyable. Ils s'imaginent déjà les 6 bourgeois au cœur noble qui se livrent au roi d'Angleterre en pleine guerre de 100 ans pour que celui-ci épargne la ville de Calais, de l'héroïsme à l'état pur. Pourtant, dès le premier regard, ils sont affreusement déçus. Les 6 bourgeois sont habillés de haillons qui ne reflètent pas du tout leur rang. Rodin prévoit de les habiller de simples chemises trempées dans le plâtre. Mais il y a pire. Ils ont des mines complètement abattues. Où sont les héros tant attendus? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette façon de mettre les 6 figures sur le même plan? Tout le monde sait qu'il faut un personnage au-dessus de la mêlée pour que le regard se pose d'abord sur lui. C'est en tout cas ce qu'on enseigne dans les écoles d'art académiques. Mais Rodin est tout sauf un artiste académique. D'ailleurs, quand il reçoit les critiques du comité, il leur répond qu'il n'est pas un sculpteur froid et conventionnel. Non, il ne modifiera pas son projet. Et non, il n'a pas envie de placer ses personnages en pyramide comme le demandent les commanditaires. Chacun de ces personnages représente l'une des 6 émotions possibles face à une situation. Cela n'aurait aucun sens d'en mettre un en avant. Les spectateurs doivent ressentir les sentiments des bourgeois. Pour cela, il veut même supprimer tout piédestal. À hauteur d'homme, on pourra toucher du doigt leur sacrifice. Cette histoire de statue sans socle, c'est vraiment trop pour le comité. Alors Rodin, dans sa grande bonté, accepte de faire un piédestal. Il n'a lâché que sur ce point.
Une chemise dans le plâtre ? Voilà une technique que Rodin va réutiliser dans un autre de ses chefs-d'œuvre.
Un héros en robe de chambre.
Où l'on fait la connaissance d'un crapaud dans un sac. Le Michel-Ange du Goître. Voilà comment, en 1898, l'écrivain Jean Lorrain qualifie Auguste Rodin. Un surnom peu aimable pour le sculpteur qui se retrouve à nouveau au cœur d'un scandale. Cette fois, il s'agit d'une commande de la Société des gens de lettres. Une statue en l'honneur d'un monument de la littérature française, Honoré de Balzac. Pour la réaliser, Rodin s'est donné du mal. Il s'est lancé dans une véritable enquête digne de Sherlock Holmes. Il s'est renseigné sur la vie de l'écrivain, bien sûr, et il est même allé jusqu'à retrouver son tailleur. En effet, Rodin a une petite idée. Reproduire la fameuse robe de chambre dont Balzac s'emmitouflait pour travailler. Ce sera l'élément central de sa future sculpture. Rodin enduit la fameuse robe de chambre de plâtre et la façonne pour créer un grand drapé. Ce travail acharné lui prend tout de même 6 années. Enfin, son projet en plâtre est dévoilé. Les traits du visage de Balzac sont expressifs, certes, mais complètement indistincts. Son corps, enveloppé dans cette immense robe de chambre, semble s'être dissous. Il n'en faut pas plus pour que la critique s'en donne à cœur joie. On compare l'œuvre à un crapaud dans un sac ou à un bloc de sel après une averse. Le critique Henri Rochefort dit même « Jamais on a eu l'idée d'extraire ainsi la cervelle d'un homme et de la lui appliquer sur la figure. » Charmant. Pourtant, Rodin est précisément arrivé au résultat qu'il visait. Pour lui, il est plus important de représenter non pas l'homme, mais l'écrivain. Son Balzac doit rendre perceptible le souffle du génie créateur, et peu importe si ce n'est pas ressemblant. Trop novatrice pour son temps, l'œuvre est si scandaleuse que la commande est finalement annulée. Et Rodin n'a jamais pu voir la version en bronze, exécutée bien plus tard, en 1935.
Rodin n'était pas tout seul pour répondre aux nombreuses commandes. Heureusement, on vous présente sa fine équipe tout de suite.
La bande à Rodin.
Où l'on découvre qu'un grand génie peut en cacher bien d'autres. D'un bloc de marbre, Rodin fait surgir la vie, la passion, la force, le désespoir. N'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Le grand sculpteur travaille principalement l'argile. Les sublimes marbres que nous admirons dans les musées sont le résultat d'un travail d'équipe. Rodin est à la tête d'un atelier hyper organisé, une bande de pros qui transposent ses idées dans la pierre avec chacun leur spécialité. Imaginez la scène. le maître vient de terminer sa dernière création, modelée dans l'argile. Un premier collaborateur entre alors en scène, le mouleur. Il réalise une copie parfaite de l'œuvre en plâtre, un matériau moins fragile que la terre. Si la sculpture finale doit être en marbre, ce qui n'est pas forcément le cas, le metteur au point prend ensuite le relais. Avec le plâtre comme modèle, il dégrossit un bloc de marbre pour lui donner la forme globale de l'œuvre. À cette étape, on reconnaît la sculpture, mais elle est encore loin du chef-d'œuvre que signera Rodin. Il faut qu'un dernier personnage intervienne, le praticien. C'est lui qui va affiner les détails et donner à la sculpture son aspect définitif. Mais avec toutes ces étapes, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la sculpture finale ne soit plus vraiment l'œuvre sortie de la tête de Rodin? Non, car rien n'est improvisé. Le maître garde un œil sur le travail de ses assistants et il leur transmet ses indications. Mais pour ça, pas question de passer par l'oral. Les mots sont trop souvent mal compris. En plus, ces praticiens de confiance ramènent parfois du travail chez eux. Alors Rodin invente une méthode astucieuse. Il laisse ses indications directement sur le marbre en train d'être taillé ou sur les photographies de ses œuvres. Un point dessiné au crayon, il faut creuser un peu plus ici. Au contraire, s'il trace un trait, cela veut dire « stop, on ne retire plus rien à cet endroit ». Et malheur à celui qui oserait rajouter sa touche personnelle. Pourtant, certains praticiens et praticiennes sont des sculpteurs très talentueux. François Pompon, par exemple, ou Antoine Bourdel, ont eu tous deux une belle carrière personnelle. Et puis, l'incroyable Camille Claudel, bien sûr.